Alors, vous vous souvenez, un petit retour en arrière, on s'était posé la question avant de partir dimanche dernier, comment ça se fait que Samuel et Dieu, là c'est plus gênant quand même, n'étaient pas du tout contents, pas du tout d'accord avec la demande du peuple qui disait « Nous voulons un roi ». Et j'avais dit « C'est quand même bizarre ». Parce que si on regarde dans l'histoire d'Abraham, alors on a plusieurs références, hein, Genèse 17, 6, « Des rois sortiront de toi ». La même chose est dite à Sarah au verset 16. Genèse 35, 11, Jacob. Deutéronome 17, 14, « Tu mettras sur toi un roi choisi par l'Éternel ». Et puis là, au verset 6, donc on est dans 1 Samuel 8, au verset 6, aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose. Samuel, prophète de l'Éternel. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose. Ah ah ! Et quand il va voir le Seigneur pour lui raconter ses malheurs, Dieu lui dit, c'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, pour que je ne règne plus sur eux. Alors là, on est mal. Comment Dieu peut dire deux choses complètement contradictoires ? Hein, dans la Genèse, dans Deutéronome, tu auras un roi sortira de toi, et de l'autre côté, première fois où il demande un roi, bah, Dieu n'est pas d'accord. Alors là, on avait un problème. Comment est-ce qu'on peut se contredire pareillement ? On pourrait même croire que Samuel est devenu susceptible en vieillissant. Ouais, il me rejette. Il a un problème de rejet, le pauvre Samuel. On pourrait prendre cette demande même pour un jugement, une critique personnelle qui s'adressait à Samuel. Et pourtant, il a le bon réflexe. Il va trouver Dieu. Et le pire de tout, c'est que Dieu lui donne raison. Alors là, on est mal. On s'était donc là. J'espère que vous avez réfléchi cette semaine. Quelle est la réponse à cette contradiction ? Alors, je pense que vous avez deviné, j'espère, vous avez réfléchi toute la semaine. La première chose, c'est un problème de motivation. Ah, le fait de demander quelque chose à Dieu, c'est une chose, mais la raison pour laquelle on le demande, c'en est une autre. Et vous savez que Dieu a la fâcheuse habitude de regarder au cœur. Aïe ! Nos paroles, c'est une chose, mais notre cœur, c'en est une autre. Et il a cette habitude. Alors, on va regarder pourquoi, où elle est la motivation. D'abord, l'ordre est clair. En plus, il donne un ordre à Samuel. Samuel était un vieil homme respecté, un prophète de l'Éternel. Et ils arrivent, les anciens, sur deux, établis sur nous un roi. Ça ne se discute pas, pour nous juger. Alors, on ne parle pas de consulter Dieu, on ne parle pas de crier à Dieu, comme ils l'ont fait lors de la dernière bataille. Je rappelle que juger, c'est, à cette époque, c'était être leader, être un chef militaire, une sorte de gouverneur. Je crois que ceux qui sont allés à Vaux-sur-Seine, vous en avez entendu parler hier. Il doit rendre la justice aussi, arbitrer les conflits. Bon, voilà, en gros, c'était le rôle du juge. Et dans la période du juge, c'est Dieu, et c'est ça là, le problème. Il faut se remettre dans l'époque. Dans la période des juges, c'est Dieu qui suscitait des libérateurs. Alors, vous connaissez le fameux cycle des juges. Sans arrêt, ça tourne comme ça. Je crains que c'est souvent un cycle très humain. Ça va bien, on est dans le confort, il n'y a pas de souci. Alors, on commence à aller dans le monde autour et à faire comme eux. On commence à prier les idoles, bah, les Astarté, pour les récoltes avec les voisins. On commence à faire les fêtes et les festins, les orgies, et puis voilà. Et puis, tout va bien. Et puis, malheureusement, comme on s'est détourné du Seigneur, inévitablement, les ennemis arrivent, prennent les territoires, brûlent les villes. Ah, alors on est très malheureux, on est asservi, on paye un impôt à l'ennemi, qu'il soit philistin ou autre. Et on est très malheureux, et au bout d'un moment, on en a marre d'être malheureux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On crie à Dieu. On demande pardon, on lui promet d'abandonner les idoles, on abandonne les idoles, on crie à Dieu, on crie à Dieu, on demande au prophète de crier à Dieu, puis Dieu suscite un libérateur. Alors, vous vous souvenez, Gédéon, Samson à sa manière, bien que ce n'était pas le meilleur. Voilà, Déborah, c'était certainement la meilleure, bien entendu. Et on sort de ce cycle, on a un libérateur. Et vous vous souvenez, la Bible à chaque fois dit, « Et pendant toute la vie du juge, on connut 40 ans de paix, etc. Voilà. » Bon, et ça recommence, comme ça. Et quelque part, le peuple ne veut plus que ce soit Dieu qui lève un libérateur. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il faut demander pardon, il faut abandonner les idoles, il faut... Ce serait pas plus simple d'avoir un roi qui a un fils, qui a un fils, qui a un fils, qui a un fils. Plus de problème. Il s'en débrouille. Puis Dieu se débrouille aussi avec lui. S'il fait mal, ben voilà, Dieu se débrouillera. On veut plus que ce soit à chaque fois un libérateur qui soit appelé par Dieu à cause des cris de repentance et de prière du peuple. C'est bien plus simple avec un roi. C'était là la motivation. Une des premières motivations, c'était ça. Plus besoin de prier à chaque décès. Hein, quand Déborah est morte, quand Gédéon est mort, oh, c'est plus la peine. Plus besoin de se repentir, de sortir de l'idolâtrie, pour que Dieu veuille bien écouter, parce que dans l'idolâtrie, il se trouve qu'il n'écoutait pas tellement. Hein. Plus besoin de ça. Autrement dit, en gros, plus besoin de cette relation permanente avec un Dieu qu'on ne voit pas. Ça, c'était dur, hein? Tous les peuples avaient un dieu sous forme de chat, de crocodile, de n'importe quoi. Je pense que déjà en Chine, ça devait être l'époque des dragons et autres. Bon, eux, ils n'avaient pas le droit de représenter leur dieu. Donc, c'est pas marrant de dire aux gens, oui, j'ai un dieu, il est comment ton dieu? Il a quoi comme spécialité? Parce que les autres, ils avaient des dieux spécialisés pour les récoltes, pour les accouchements, pour ci, pour ça. Et toi, ton dieu, on ne peut pas le représenter. Non, il fait tout. C'est pas évident, hein? Plus besoin de cette relation permanente avec un Dieu qu'on ne voit pas, plus besoin de dépendance. Ah. On aime être indépendant. Avec un roi, on peut sortir de là. On est libre penseur. Au passage, il faut noter que les anciens du peuple utilisent des vrais arguments. T'es vieux, tes enfants ne suivent pas tes voies, bah, il va nous falloir quelqu'un. Hein. Les arguments sont vrais. Mais en fait, c'est pour couvrir une vraie désobéissance. Et ça m'a fait réfléchir, vous savez, après bientôt 40 ans au service de Dieu, il y a des choses qu'on découvre, puis après, hein, ça se reproduit, donc on voit bien que c'est ça. Combien de gens disent « je ne vais plus » ou « je ne vais pas à l'église » parce que j'ai été trop blessée, parce qu'il y a trop d'hypocrites. Alors, blessés, c'est vrai, hein, les humains se blessent entre eux, même s'ils ont l'étiquette de chrétien, ça... C'est malheureusement, c'est vrai, il faut le reconnaître. Il y a trop d'hypocrites religieux. Ben, ça, c'est vrai aussi. Les chrétiens sont décevants. Oh, ben, ça, c'est sûr. Hein. À commencer par moi-même. On est décevants. Non, mais on disait ce matin, oui, avec Sarah et Tom, on n'est pas ce qu'on devrait être. Et on en est tous conscients. Et si on commence à regarder à ça, alors là, on peut entendre la parole qu'a donnée André ce matin, je suis un mauvais chrétien. Ben oui, si on regarde à tout ce qu'on devrait être et qu'on n'est pas, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Alors, les chrétiens sont trop ceci ou pas assez cela. J'ai entendu ceci ou cela. J'ai été choquée. Il y a de quoi être choquée. Un jour ou l'autre, tous, même les meilleurs d'entre nous, on va sortir une parole qui ne va pas. C'est vrai, c'est la vérité. Le culte dure trop longtemps. Ça, c'est vrai aussi. Et voilà. On voit que les raisons, elles peuvent être tout à fait vraies. Mais la réalité, et ça je l'ai expérimenté combien de fois, et regardez autour de vous. La réalité, c'est qu'en général, c'est une désobéissance à Dieu qu'on dissimule. Et c'est facile de dire « je ne vais plus à l'église parce que les gens sont ceci et cela », parce qu'en fait, il y a une désobéissance qu'on veut garder. Et ça, on s'en aperçoit après. Une double vie. Ah, c'est pas marrant de vivre dans une église quand on a une double vie. Ça va un moment, mais c'est dur hein, de marcher un pied sur le trottoir et un pied dans le ruisseau. Essayez, vous allez voir, c'est pas drôle. Ça fait mal dans le dos. Et ça, c'est pas drôle. Donc, on va pas dire, ah, les frères et sœurs, j'ai une double vie, c'est pour ça que je quitte l'église. Non, on dit, les chrétiens sont décevants, je quitte l'église. C'est mieux, parce que c'est vrai, de toute façon, les chrétiens sont décevants. C'est un péché qu'on veut pas abandonner, ou une idole. Alors bon, on ne va pas dire aux gens, vous savez, j'ai une idole, c'est pour ça que je ne viens plus à l'église, ça ne se fait pas, quoi. C'est un pardon, souvent, qu'on ne veut pas accorder à quelqu'un. Peut-être la personne ne le mérite pas, mais bon. On ne veut pas non plus le demander, le pardon, parfois. C'est une attente qui est déçue. Une responsabilité qui a été donnée à quelqu'un d'autre, et on n'a pas compris pourquoi. Même si parfois, il y a des raisons. Alors, oh. Parfois, c'est simplement parce qu'on ne veut pas s'impliquer. Hein, c'était un prêtre qui disait ça avec beaucoup d'acuité. Il disait, maintenant c'est le supermarché des religions. On cherche le meilleur rapport qualité-prix. Donc, moins j'en fais dans l'église et mieux je suis reçu, ce sera la meilleure. Oui, c'est pas de moi ça, c'est un prêtre qui a dit ça. Donc voilà, tout ça, c'est les vraies raisons. Et souvent, les responsables de l'Église, les frères et sœurs de l'Église, ils se remettent en question, comme Samuel. On n'a peut-être pas fait assez. On n'a peut-être pas fait assez bien. Puis on compatit, et on écoute les gens, on y croit. Et c'est bien, parce qu'il faut toujours commencer par là. Je veux dire, si quelqu'un ne veut plus aller à l'Église, il faut quand même se poser la question, hein, c'est important. Qu'est-ce qu'on a fait de travers? Je pense que c'est un stade par lequel il faut passer. Et si c'est le cas, c'est facile à régler. On demande pardon, on corrige le tir. Bon. Mais attention, il faut aussi écouter le Seigneur. Et je sais que souvent, le Seigneur m'a dit ça, moi aussi, en particulier une fois dans ma vie. J'étais très choquée parce que j'étais déterminée à me culpabiliser. Et le Seigneur m'avait répondu, c'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Et j'étais pas du tout d'accord avec le Seigneur. J'ai dit, non, non, Seigneur, j'ai forcément fait des tas de choses de travers. Et j'ai dit des choses qui convenaient pas, etc. Et je sentais cette parole, c'est pas toi, c'est moi. Alors évidemment, au début du ministère, on va s'accuser, hein. Mais c'est bien de passer par ce stade. Mais il faut aussi dépasser ce stade. Il y a des moments, et souvent, les gens quittent le Seigneur parce qu'il y a quelque chose dans leur vie qu'ils veulent pas lâcher et ils veulent pas obéir. Et ça, il faut en être conscient. Il faut pas tout le temps se culpabiliser. On se pose la question, puis après on passe. Et vous allez voir, si vous réfléchissez un petit peu au fil des années, vous allez voir que bien souvent, des gens ont quitté l'Église et vous découvrez 2 ans, 3 ans, 10 ans après. Quelle était la vraie raison? Alors, je ne parle pas de ceux qui, authentiquement, vont choisir un autre style d'église pour de très bonnes raisons. Ceux-là, en général, d'ailleurs, gardent des très bonnes relations avec l'église. Hein, ça nous est arrivé. Hein. Soit pas assez charismatique, soit trop charismatique. Bon, chacun doit se trouver à l'aise dans sa famille. Hein, c'est normal. Ça, je ne parle pas de ça. Parce qu'en général, ils savent expliquer et on reste en bonne entente. Le problème, c'est quand on ne veut pas que Dieu règne sur nous. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Ben oui, parce que Dieu, il est exigeant. Il n'est pas exigeant pour nous faire faire des pèlerinages avec des noyaux de cerises dans les chaussures, mais il est exigeant sur la relation. Et ça, c'est exigeant, une relation. Regardez parfois, si vous avez des amis, ça a dû vous arriver. Et puis bon, ils ont déménagé, même pas forcément très loin. Au début, on se téléphone toutes les semaines. Et puis. Alors, petit à petit, la relation, elle va se distendre. C'est normal, c'est la vie. C'est exigeant, une relation. Si vous apportez pas un peu de combustible, bah, ça brûle plus. C'est vrai dans le mariage, c'est vrai dans le mariage, si vous arrêtez de vous disputer définitivement, ça va plus. Ça fait partie des relations. Chamaillez-vous, qui disait. Mais vous savez, ça peut s'effilocher et vous l'avez tous expérimenté avec des amis très chers. On a téléphoné un peu moins et puis voilà. Et puis, ça devient des étrangers et puis ça fait mal au cœur. Une relation, c'est fatigant. C'est exigeant. Ça demande beaucoup de notre énergie, de notre temps et de notre bonne volonté. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Et bien, avec Dieu, c'est pareil. C'est pareil. Hein? Ça vous est jamais arrivé de dire, oh là là, j'ai pas lu ma Bible cette semaine. Oh là 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 là. C'est exigeant une relation. Il faut lire les lettres du Seigneur tous les jours, etc. Bon, voyez ce que je veux dire. Donc c'est tout le problème. Jésus Sauveur, c'est super. Là, on est tous d'accord. Mais Jésus Seigneur, c'est beaucoup moins drôle. C'est plus dur. C'est tout le problème de la repentance. Reconnaître ses torts, demander pardon, changer de vie, changer de comportement. Ça, c'est dur, hein. Revenir, se soumettre à la parole de Dieu. Pour les Juifs, hein, à cette époque, c'était reconnaître leur infidélité, demander pardon, jeter les idoles. Elles étaient belles parfois, ces idoles, elles coûtaient cher. Hein. Changer d'habitude, revenir vers Dieu, se soumettre à ses lois. Et alors, il suscitait un libérateur, Déborah, Gédéon, Samuel, etc. Donc, première motivation, ils ne veulent pas que je règne sur eux. Deuxième motivation, ça, je pense que vous l'avez tous trouvé. On veut être comme les autres. Un roi, comme en ont toutes les nations. Être pareil, pas être différent, avoir la même chose que les autres. C'est chevillé à notre corps depuis qu'on est bébé. Depuis qu'on est bébé, je veux être comme les autres. Je veux ce que les autres ont. Mettez deux bébés face à face, chacun avec un jouet. Ils vont vouloir le jouet de l'autre. Ça commence très tôt, ça. Je veux ce que l'autre a. C'est terrible, hein? Alors pensez un tout petit peu, il faut se remettre à l'époque. C'est un peuple d'agriculteurs, éleveurs et artisans, en gros. Hein. Ils sont pris dans une certaine routine. Hein. Les animaux, ça rigole pas. Si vous n'avez pas traire vos vaches le matin à 6 heures, vous aurez des problèmes. Donc c'est dur, hein, la vie d'agriculteur. Il y avait bien sûr des belles fêtes chez les Hébreux. Hein. Alors là, ceux qui connaissent bien Israël, hein, la fête des moissons, ta, 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 ta. Mais ils n'avaient pas de roi. Il n'y avait pas de palais, il n'y avait pas de cour, il n'y avait pas d'apparat, il n'y avait pas de cavalerie, pas de danseuses, de beaux soldats qui font des parades. Regardez les Anglais. Il y en a une ici à la pointe de nez tort. L'importance de la représentation de la royauté, encore au XXIe siècle. Il y a une période où les Anglais ont commencé à dire, surtout au moment de Diana, là, oh, allez, la royauté, on s'en débarrasse. Hein. Ça coûte cher en plus, c'est vrai. Et il y a eu une réaction, mais forte. Ah non, c'est notre représentation dans le monde. Qui ne connaît pas la reine d'Angleterre? Ah non, mais on ne peut pas s'en passer. C'est pas possible, on ne peut pas faire sans. Il y a eu une réaction, hein. Et on a commencé à refaire des t-shirts avec les symboles de la royauté, des mugs et tout ça. Parce que ça fait partie de la représentation de l'Angleterre dans le monde. Alors, maintenant, si on revient, donc 30 siècles en arrière, 3000 ans, hein, 30 siècles en arrière, vous imaginez, pour ce peuple d'agriculteurs, d'artisans, etc., avec leur routine un peu fatigante quand même, hein, eh bien, leur pauvre nature humaine, leurs émotions, c'est-à-dire leur chair, si on est chrétien, on appelle ça comme ça, ils n'y trouvent pas leur compte. C'est la routine, de temps en temps, il y a une fête, puis voilà. Dieu avait bien prévu un roi pour eux, mais ce n'était pas pour ces raisons-là. Et leur motivation, eux, c'était être comme les autres. Hein, c'est quand même chouette d'avoir un roi. Imaginez quand l'agriculteur du coin rencontrait le gars de la province d'à côté, qui était païen, et puis qui disait « Ouais, on a fait une fête, il y a eu un défilé, et puis il y a eu des danseuses, et puis le roi est sorti sur son cheval blanc, et puis... Et vous ?» Ben... Nous, bah déjà, votre Dieu, on ne le voit pas. Et puis, vous n'avez pas de roi. Mais à quoi vous ressemblez? Un peuple d'arriérés, mes enfants. Ce n'est pas possible. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas représenter leur Dieu. Ils n'ont même pas de roi. Sincèrement, imaginez le dialogue des paysans à cette époque-là. Quand ils avaient fini leur chant le soir, ils disaient, tiens, nous, on part à la fête. Le roi, il a organisé une fête, etc. Et vous? Ben non, la fête des moissons, ce n'est pas tout de suite. Et puis, ben non... Ils en avaient marre, ces humiliations. Ils auraient voulu quelque chose qui les représente dignement. Marre d'être différent. Hein? Alors, pas boire, pas fumer, pas draguer, pas se droguer. Pas faire tout ce qu'on a envie quand on en a envie. Quand j'étais jeune, j'ai vu pas mal de jeunes de mon église. On avait un groupe de jeunes d'une centaine. Et j'en ai vu pas mal qui ont quitté l'église pour ces raisons-là. Marre d'être différent. Alors, certains sont revenus avec les difficultés de la vie. D'autres, franchement, ils ne sont pas revenus et ils ne font pas envie. Mais c'est ça l'avantage de vieillir, hein, c'est qu'on voit le résultat des actions des gens. Et c'est un peu... Voilà, ça fait froid dans le dos. Et on peut se poser la question, pourquoi je suis différent en tant que chrétien? C'est pas marrant d'être différent. Pourquoi je suis différent? Alors attention, hein, je ne parle pas d'être différent pour le plaisir d'être différent. J'aime beaucoup les Amish, mais ce n'est pas mon style quand même. Mais non... C'est pas le but, hein. Mais pourquoi est-ce que je suis différent? Ça vaut le coup de se poser la question. Et jusqu'où? Est-ce que vous êtes différent simplement pour faire plaisir à vos parents? Alors là, ça va pas durer longtemps. Est-ce que on est différent parce qu'on va dire aux gens, bah, c'est ma religion, me le défend. Hein, on vous propose un peu d'herbe et on vous en voulez pas parce que vous n'êtes pas herbivore. Mais voilà, vous dites, bah non, moi j'en prends pas parce que ma religion me le défend. Hein? Est-ce que c'est ça? Ce genre de différence, ça va être chaud à garder longtemps. Est-ce que c'est aussi parce que ben non, les autres à l'église, ils vont me juger? Aujourd'hui, je peux vous dire que les jeunes chrétiens vont être recherchés dans votre génération. Les jeunes chrétiens qui vont garder des valeurs, ils vont être recherchés. Ils vont être recherchés au travail. Ils vont être appréciés dans leur voisinage. Ça vaut le coup d'être différent. Ça vaut le coup d'être différent. Parlez un peu avec les jeunes qui travaillent ici. Alors les jeunes, pourvu c'est des vieux, d'accord. Ceux qui ont au-delà de 25 ans, qui sont au boulot, donc des vieux pour vous. Demandez-leur qu'est-ce que leur chef apprécie. Je ne crois pas me tromper en disant que la plupart de ceux qui travaillent ici sont appréciés à cause de leurs valeurs. Parce qu'ils sont différents. Il y en a à qui on le dit ouvertement, je sais que c'est arrivé à Florence. Il y en a à qui on le dit ouvertement. On t'apprécie parce que tu es différent, tu n'es pas comme les autres. Donc, ça peut valoir la peine d'être différent. Mais on reviendra là-dessus après. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on soit différent dans une société qui perd ses repères et ses valeurs? C'est parce que Dieu veut nous construire avec des matériaux solides, nous rendre forts pour tenir debout, être des poissons vivants, c'est ce que je l'ai dit l'autre fois. Il n'y a que les poissons crevés qui descendent les rivières. Les autres, ils remontent le courant. Et il faut oser remonter le courant. C'est cette différence-là que Dieu recherche. Vous savez, la différence, c'est ce que Dieu dit. Choisis la vie. Choisis la vie. C'est un verset très important dans la Bible. Et quelqu'un nous disait récemment que ça a sauvé une personne du suicide. Elle avait envie de se suicider. Et elle a lu ce verset. Choisis la vie. Merci Seigneur pour la puissance des paroles de la Bible. Choisis la vie. Différent parce qu'on veut choisir la vie. Pas pour le plaisir d'être différent. Il y a eu trop de chrétiens qui se faisaient un plaisir d'être différent des autres. C'est lamentable. Ça peut pas durer. Et puis ça rend un mauvais témoignage. Bien sûr, vous êtes appelés à apprécier tout ce qui est bon, juste, digne d'approbation, Philippiens. Hein. Savoir s'associer à des bons projets. C'est amusant d'ailleurs comment tout le monde aujourd'hui comprend l'intérêt de manger sain, manger bio. Légumes et fruits, machin, etc. Et tout le monde est d'accord là-dessus, même ceux qui ne le font pas, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Et tout le monde en comprend l'intérêt. Mais posez-vous la question de quoi, et alors nous les vieux aussi, de quoi est-ce qu'on nourrit notre âme? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi, hein, ils n'oseraient pas dans le monde, hein, je pense que les libres penseurs seraient peut-être les premiers à s'y opposer, manger sain pour notre âme, avaler des choses saines, assimiler des choses saines, hein, en livre, en BD, en musique, en film, dans nos amitiés, dans nos conversations. Pourquoi on devrait faire ça aussi? Assimiler bio dans notre tête, dans nos émotions. Alors on en voit l'intérêt pour le physique, hein. Mais peut-être il faudrait commencer, surtout en tant que chrétien, à avoir l'intérêt pour la vie quotidienne. Les conversations qui nous démolissent ou qui tordent notre regard. Les films qui changent notre perception de la moralité très habilement. C'était John Wimber qui disait ça une fois. Il était en avion, il partait pour une conférence. Et puis, il y avait un film, il l'a regardé. Puis à un moment, il s'est surpris à donner raison à quelqu'un qui était dans le péché jusqu'au cou, quoi. C'était tellement bien tourné, tellement bien présenté que lui, il était là, ah bah oui, le pauvre. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, comment c'est bien fait? Attention, qu'est-ce qui vient nourrir notre âme? Et il serait temps de se mettre au bio de ce côté-là aussi, hein. Alors leur motivation, c'était pas... C'est ça m'a choqué aussi. Leur motivation, ça aurait pu être pour être débarrassés de nos ennemis, on veut un roi. Ça, je pense que Dieu l'aurait entendu. Pour être stabilisés, unifiés dans notre territoire, ils en avaient furieusement besoin. Ça aurait été un bon argument. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait avec David. Être conforme à la promesse de Dieu. Ils auraient pu dire, Seigneur, on va être conforme à ta promesse. Tu sais, tu avais dit qu'on voulait un roi, non? Espérer un royaume solide, respecté par les autres pays. Non, ce n'était pas ça l'argument. On veut être comme les autres. Verset 7, Dieu dit, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Fais exactement ce qu'il demande. Alors là, vous savez, Dieu, parfois je trouve qu'il est très rusé, entre guillemets. Tu vas leur donner exactement ce qu'ils demandent. Et c'est ce qu'il va faire. Et là, vous allez voir, c'est assez amusant parce que il va leur donner un roi comme ceux des autres nations, sur les mêmes critères que les autres nations. On va le voir un petit peu après. Pas un roi selon le cœur de Dieu. Ils veulent un roi comme les autres nations, ils auront un roi comme les autres nations. Et c'est ce qu'on va voir dans la vie de Saül. Deuxième et troisième raison, le temps de Dieu et le choix de Dieu. Ah, ça c'est quelque chose qui est terrible dans la vie chrétienne. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même si vous avez été chrétien qu'un an, vous avez remarqué que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et ça, c'est épouvantable. Le choix de Dieu n'est pas toujours le nôtre non plus. Et ça, c'est pas drôle non plus. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Heureusement, elles sont au-dessus, elles sont pas en dessous. Ouf. Mais quand même, le fait que ce soit différent, ça nous coûte. Hein. Alors, je me suis posé la question. Est-ce qu'ils sentaient, Vous savez, au moment de la venue de Jésus, les historiens disent qu'il y avait des mouvements partout qui disaient « le Messie va arriver ». Ils le sentaient. Ils ne se sont pas trompés, il est effectivement arrivé. Et est-ce que le moment d'avoir un roi, ils le sentaient aussi ? Peut-être. Ils sentaient que le moment approchait. La promesse de Dieu allait arriver. Mais ils ne veulent plus attendre. Et ils ont toutes les bonnes raisons, très rationnelles, pour dire à Samuel, donne-nous un roi maintenant. Et ça m'a fait penser à quelqu'un d'autre qui était pressé aussi d'être exaucé, et on le comprend. Abraham. Il sentait que le moment n'allait pas tarder, Dieu lui avait promis, et puis peut-être il faut que je fasse quelque chose à la place de Dieu. Et il a suivi le conseil de sa femme. C'est la seule fois où le conseil d'une femme n'était pas bon. Et il a eu cet enfant. Mais ce n'était pas celui que Dieu avait promis. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le peuple. Il pressent que c'est la période pour avoir un roi. Eh bien, il va s'en faire nommer un, selon ses critères à lui. Pareil qu'Abraham. Et on va s'apercevoir que David était bien le choix de Dieu. Est-ce qu'il était déjà né ? Si ça se tombe, en plus, il était déjà né. Je n'ai pas fait le calcul, mais si ça se tombe, ce n'est pas impossible qu'il soit déjà né. Donc, la promesse était là, toute prête. Et le peuple prend les choses en main, malheureusement avec les mauvais motifs. Tu nous choisis un roi, comme les autres peuples. Pas comme Dieu voudrait. Ils ne peuvent plus attendre. Et ça, c'est intéressant, parce que dans notre vie, c'est des choses qui doivent nous arriver de temps en temps. On prend les choses en main, on fait les choses à notre manière, pour faire comme les autres, alors que Dieu avait prévu autre chose pour nous. Et c'est intéressant, c'est que Dieu lui-même, ça c'est incroyable, parce que je me suis posé la question, mais enfin, pourquoi ? Est-ce que c'est Dieu qui nomme Saül ? On ne peut pas dire le contraire quand on voit l'histoire. Dieu n'a pas pu se tromper, pourquoi est-ce qu'il a nommé Saül ? Et puis voir tout ce qui s'est passé derrière. Mais en fait, ben oui, Dieu a exaucé leurs vœux au petit poil, exactement comme les autres nations. C'est-à-dire, on va voir que Saül, c'est quelqu'un qui présente bien. Il vient d'une bonne famille, assez riche, il est grand, il dépasse tout le peuple d'une tête. Ça, pour représenter un peuple, hein. Nous on avait De Gaulle, hein, quand les jeunes n'ont pas connu. Mais il est grand, il est beau, il impressionne. Et ben voilà, c'est tout ce qu'il faut pour être comme les autres nations. On ne parle pas de son cœur. Pourtant, je trouve que Dieu est extrêmement sympa. Parce qu'il va tout faire, ce qu'il aurait pu dire. Vous voyez, Dieu n'a pas ce côté vicieux qu'ont les hommes. Hein. Il aurait pu dire... Je vais leur donner ce qu'ils veulent, hein. Un grand roi, et puis ils vont voir ce qu'ils vont déguster. Non, il est sympa, il va même le remplir du Saint-Esprit, il va lui donner de prophétiser, il va faire tout pour que ça marche. Ben, je trouve que Dieu est quand même sympa. Quelle générosité de la part de Dieu, ça on en reparlera la prochaine fois. Ceci étant, Dieu ajoute ceci, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Aïe ! Il s'est dit, on va quand même les prévenir. Il faut que vous sachiez quand même, d'accord, c'est joli dans les autres nations, mais il faut que vous connaissiez leurs droits. Pas les droits selon Dieu, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, Dieu est d'accord avec tout ça. Non. C'est les droits d'un roi selon les autres nations. Et les historiens vont vous dire qu'à l'époque, il y avait plein de petits roitelets, là, autour d'eux, et à Ougarit, en particulier, il y avait un royaume très fort. Ça c'est les archéologues qui nous disent ça. Donc on savait, on connaissait les droits des rois de par ces rois locaux. Et on va lire versets 11 à 17 pour les remémorer, parce que c'est assez instructif. Très bon historiquement d'ailleurs, hein, c'est très important. Parce que quand même 3000 ans avant Jésus-Christ, avant 3000 ans avant notre époque, vous voyez déjà comment ça faisait. Donc le roi Soleil, Voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Ils courront devant son char. C'était la coutume à l'époque. Vous imaginez courir devant la Ferrari du président. Il en disposera comme chef de 1000 et en disposera comme chef de 50, aussi bien que pour labourer ses terres, récolter sa moisson, fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. Il prendra les meilleures de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers. Il les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses chambellans et à ses serviteurs. Il prendra les meilleures de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, de vos ânes et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail. Et vous-même, belle conclusion, vous deviendrez ses esclaves. Après ça, on pourrait croire que le peuple va dire « Oh !» ras-le-bol du roi, on va garder nos juges. Mais non, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. Quand on veut quelque chose, quand on... Vous voyez comme c'est fort la volonté d'être comme les autres. Et ça, on le voit chez tous les chrétiens qui abandonnent le Seigneur ou qui veulent marcher comme ça. La volonté de plus être différent, la volonté d'être comme les autres dans le monde, c'est extrêmement puissant. Et même si on sait qu'on sait qu'on sait que ça va faire des problèmes, on veut ce qu'on veut. Alors, j'ai pensé que ce serait bien pour les jeunes, mais aussi pour tous les jeunes que nous sommes, d'avoir une version plus moderne de ce texte. Et ça, c'est la première surprise. C'est Charles qui a fait le pauvre. Je lui ai demandé ça à 9h du soir. C'est la coutume chez les Hubert, vous savez bien.
Ouais, je l'ai grondé, j'ai dit, attends, tu vas mettre Charles en échec, là, c'est pas bon.
Non, il n'y a pas de danger.
Ouais, l'échec, j'ai plus peur, moi, de ça.
Voilà la version moderne.
Ouais. Ou familiale, disons. Donc, Samuel dit aux gens qui demandaient un roi. Vous voulez un roi? Bah, d'accord. Mais alors, d'abord, Mais d'abord, ouvrez grand vos oreilles, les cocos. Vous serez obligés de lui obéir, de répondre fissa, fissa à chacune de ses exigences. Normal, c'est le roi. Genre, si vous avez des fils qui ont passé le biberon, il les embarquera pour la guerre. Enfin, sa guerre. Il les mettra sur le front comme bouclier humain pour se protéger lui. D'autres auront la lourde tâche de diriger des bataillons à l'abattoir. D'autres encore seront en train de galérer dans les champs à ramasser ses récoltes ou à fabriquer des armes ou encore à réparer les gros chars 4x4 de sa majesté. Ce dernier prendra aussi vos filles pour le laver, l'habiller ou pour lui préparer ses bons petits plats, ses gâteaux préférés. Il vous taxera votre meilleur terrain, votre meilleur pinard et vos plus beaux arbres fruitiers pour les refiler à ses meilleurs hommes, des requins plus ambitieux que vous. Il obligera tous vos employés, femmes de ménage, hommes de maintenance, etc., et même vos meilleures bêtes, à le servir lui. Au fait, en parlant de bêtes, le roi vous en prendra 1/10 dans chaque troupeau. En gros, vous serez non pas ses sujets, mais ses objets. Vous serez ses larbins, ses pantins, bref, ses esclaves. Et c'est là que vous commencerez à chouiner, à râler auprès du Seigneur à cause du roi que vous avez voulu. Mais le Seigneur ne vous répondra pas. Faites gaffe, réfléchissez.
Merci. Voilà. On ne peut pas servir de maître. Vous savez que c'est ce qui est écrit. C'est Jésus qui a dit ça, Matthieu 6, 24. On ne peut pas servir de maître. Même nous, en tant que chrétiens plus âgés, la tentation est toujours là, il ne faut pas rêver. De rester un petit peu à cheval, de point trop n'en faut. Attention, on ne peut pas servir de maître. Comme le dit le chant, hein, on ne peut pas servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Alors on doit avertir. Si vous ne voulez pas que Jésus règne en roi sur votre vie, si vous voulez être comme les autres, le fait est qu'il y a aussi un prix à payer. Et ce serait dommage. Surtout, je pense aux chrétiens qui cherchent à vivre les deux. C'est dommage parce que du coup, on paye un prix des deux côtés. Ce n'est pas avec le Seigneur que ça coûte le plus cher, mais on essaie d'entretenir une relation à peu près avec le Seigneur et d'être comme les autres. Du coup, on paye des deux côtés. Il y a un prix à payer. Vous avez vu, le prix à payer, c'est l'esclavage. Vous serez esclave de ce roi. Et je le dis souvent aux jeunes, Dieu, il veut une relation avec nous, mais il vous laisse libre. Du jour au lendemain, vous pouvez prendre vos clics et vos claques. Dieu ne va pas vous foncer dessus avec un bâton, il ne va pas vous retenir. Par contre, le monde, le diable, c'est pas pareil. Lui, il met des hameçons sur vous. Il a des crochets. Et quand vous voulez partir, c'est chaud. Il ne vous laisse pas comme ça. Hein, c'est ce que je dis toujours aux parents, attention. Parce qu'après, il y a des parents qui me disent, oh, mais il faut laisser les enfants libres de choisir, oui. Parce que vous croyez qu'ils sont libres de choisir? Le monde fait une pression démentielle. Le diable fait une pression démentielle. Et lui, il pose des crochets. Et une fois qu'on est hooked, hein, une fois qu'on est bien accroché, c'est pas si facile que ça de partir. Vous savez, dans les années, quand on s'est rencontré avec André, 70, on avait beaucoup de gens à la fac qui se droguaient. Ils étaient gentils comme tout. Charmants. Vraiment des gars chouettes. Et certains auraient bien voulu quitter la drogue. Mais ça ne se fait pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont souffert ? Les relations rompues, leur santé abîmée, enfin, vous connaissez le problème ? On ne quitte pas le diable comme ça, on ne quitte pas le monde comme ça. Hein ? Et ça, il faut le savoir. Le prix à payer est très cher et Charles nous réserve une autre version, alors très 21e siècle, sur ce passage. Et il y a quelque chose qui me marque, c'est que le monde médical en France, les psys, de quelque bord qu'ils soient d'ailleurs, la sécu, les allocs aussi, quand ils font leur petit journal, la justice, l'enseignement, tous, ils crient au loup sur les addictions. Alcool, tabac, drogue, jeux d'argent, jeux vidéo, tous se demandent comment sortir les gens de ces addictions. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre monde. Des gens, peut-être même libres penseurs, athées jusqu'au trognon, vont vous faire des articles. Je parlais ce matin d'un article que j'ai lu dans le journal des allocs, qu'on ne peut pas taxer de très religieux, sur la musique et le fait comment la musique, certains types de musique, accrochent les jeunes et leur fait vraiment du mal. Le journal des allocs, pas particulièrement religieux. Et vous pouvez prendre n'importe quel journal, n'importe quel magazine, vous trouverez des articles sur comment sortir de la passion des jeux vidéo qui fait que les enfants ne font plus leurs devoirs, etc. Mais les non-chrétiens, ils s'en posent des questions. Comment sortir de la drogue quand on s'est habitué à prendre du hash pendant des années, puis qu'on commence à aborder d'autres, etc. Comment, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un problème. Alors, moi, j'ai entendu à la radio, et ça, j'étais sidérée. La pornographie sur Internet va devenir un problème de société. C'est grave. Oh, c'est un psychiatre non chrétien. Non, mais je rêve pas. Le prix à payer, ils le savent, les gens du monde. Parce que peut-être quelquefois eux-mêmes le payent. Et à côté de ça, ces mêmes médias, dans l'émission suivante, vont vous encourager. Faites ce que vous voulez. Profitez sans contrainte. C'est intéressant. Et le dernier verset, pourtant clair, vous deviendrez ses esclaves. L'Éternel ne vous répondra pas, parce que l'Éternel respecte le choix. Dieu respecte nos choix, contrairement au diable. Mais c'est des choix qui ont des conséquences. L'alliance, la relation est rompue. Et quand une relation est rompue, vous savez, tous ceux qui ont vécu des relations rompues, à quel point c'est douloureux. Des deux côtés. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Et Samuel va retourner vers le Seigneur. Verset 20-21. Alors verset 20, il disait « Nous aussi nous serons comme toutes les nations, notre roi nous jugera, il sortira devant nous et conduira nos guerres. » C'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Bon, Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute leur voix, tu établiras un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël « Allez-vous-en chacun dans sa ville, écoute leur voix. » Et attention, là moi je me souviens quand j'étais jeune, j'avais très peur de ça. Que Dieu me donne tout ce que je demande et que je me trompe. Et je disais, Seigneur, je te demande une chose. Même si je te demande quelque chose qui va vraiment me coûter, mais si je te demande quelque chose et que tu n'es pas d'accord, surtout ne me le donne pas. Surtout, surtout. Même si je pleure, je disais, je me souviens. Même si je pleure, Seigneur, non, non, non. Surtout ne m'exauce pas. Si ce n'est pas dans ta volonté, non, 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 non. Parce que je voyais. J'étais pas bête. Je voyais les conséquences chez les autres. Et je me disais, non, 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 moi, je veux pas. J'ai toujours eu peur de la douleur, moi. Et non, Seigneur, non. Hein? Et je crois que c'est un peu ça, là. Le Seigneur dit, ok, tu le veux, ben, tu l'auras. Et tu l'auras comme tu le veux, comme les autres nations. Et on va voir après ce qu'ils vont déguster. Alors, là, je m'adresse aux parents, à tous les gens qui exercent un ministère, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Frères et sœurs, on ne peut pas imposer aux gens de suivre Jésus-Christ. On ne peut pas leur demander d'être conformes à sa parole. Mais ne nous culpabilisons pas. Comme Samuel, ce que Dieu demande, c'est qu'on prévienne. Qu'on présente les droits de celui qui règnera sur eux. Je vous dis, parfois on n'a même pas besoin de la Bible. Les journaux, les magazines, la radio le font pour nous. Ils les donnent, les droits. Tous les choix ont des conséquences, on ne peut pas servir de maître. Comme Josué, moi ce que je vous dis aujourd'hui, choisis la vie, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. On est obligé de faire un choix. C'est, on vit dans une époque où on n'aime pas faire des choix, on veut tout. Puis on dit aux jeunes d'ailleurs, tu peux tout avoir. Un travail qui va te rapporter un max d'argent avec un minimum de temps de travail. Oui. Et du travail honnête, par-dessus le marché, hein, c'est encore plus difficile. On croit qu'on peut tout avoir. Tout. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Si le monde occidental est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des milliers de chrétiens convaincus qui ont servi le Seigneur et leurs semblables. Et ça, on l'oublie. Et ça, j'aimerais bien que les jeunes fassent un petit travail là-dessus. Rechercher les bénéfices qu'on a aujourd'hui dans la société occidentale et qui viennent directement à cause de chrétiens convaincus. Oui, je pense que vous pourrez voir Philippe et Hélène, parce que je pense qu'ils ont déjà une bonne liste. Mais moi, j'ai pensé à l'armée du salut, la Croix-Rouge. Vous savez, dans les guerres, la Croix-Rouge, si elle n'était pas là, ce serait horrible. Tous les savants, les médecins qui ont fait des vaccins, etc. Même voilà, pasteur, etc. Voilà. Combien de chrétiens, même au niveau des juristes, la Constitution américaine s'est inspirée directement de celle de Rhode Island qui avait été faite par des baptistes. Voilà. Tout ça, on ignore, hein, parce que le diable, ça, alors là, il ne vous le dira pas. Mais si on retirait tous les bénéfices qui ont été apportés à notre société par des chrétiens engagés, qui n'ont pas voulu être comme les autres, ouh, bah, la vie ne serait pas drôle. Hein. La vie ne serait pas drôle. Et je pense que dans les mois qui viennent, vous allez entendre des témoignages passionnants de gens qui ont suivi Jésus. Hein, je pense qu'on a des invités là qui vont venir, des gens remarquables qui vont beaucoup vous faire rire. Sache, c'est très important aussi, savoir rire. Et écoutez bien leurs témoignages. Nous tous, même les plus âgés, écoutons bien, parce que ça va nous encourager. Qu'est-ce qu'un chrétien qui s'engage peut apporter à la société de positif, de formidable? Et la vie chrétienne, c'est quelque chose de chouette. Être différent, ok, ça a un certain prix, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et alors, pour nous prévenir, comme Dieu l'a demandé, hein, préviens-les des droits du roi. Maintenant, je vous laisse, pour terminer, la version alors hyper moderne, hyper adaptée à notre époque, aussi par Charles, que j'ai fait travailler ce matin.
Il n'y a plus de limite.
Donc Samy dit aux gens qui voulaient être classe, être dans le move, se faire plaisir, être libre, comme il disait. Alors vous voulez être libre, les gars? Être comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, font ce qu'ils veulent et n'ont donc aucun compte à lui rendre? Très bien. Mais sachez, chers amis, que même au monde, on doit sa part, on doit une part en retour. Rien n'est gratuit. Nothing is free, babies. Bien au contraire. Tenez, vous voulez vous faire plaisir, c'est-à-dire à votre chair, et aller mater du porno à gogo? Alors n'oubliez pas que cela détraquera votre perception des femmes, du sexe et de vous-même. Ça vous rendra plus froid au cœur, plus assoiffé dans votre cerveau malade et plus associable encore. Vous pouvez aussi satisfaire vos désirs en cherchant de la thune, en mettant un max dans vos poches. Bagnole, grosse baraque, gilet, Hugo Brosse-toi. Mais l'argent ne vous offre que des faux semblants. Des faux semblants de bonheur, d'amis, de réussite. Vous pouvez aussi satisfaire vos sens, écouter de la zik qui déchire vos synapses, fumer des pétards qui les font planer avant qu'ils ne s'écrasent lamentablement, ou rester les yeux branchés à vos téléphones, vos TV, vos ordinateurs, au nom de la communication et des relations virtuelles, Facebook, etc. Alors que vous perdez du temps de vie, lui bien réel. En fin de compte, votre volonté d'insoumission, de libre satisfaction, ne conduit qu'à l'aliénation de votre personne. Bon, pour ceux qui ne pigent pas, en gros, vous préférez faire ce que vous voulez dans un étroit cachot plutôt que de marcher dehors avec votre Dieu. Rien n'est anodin, les amis. Rien n'est sans condition. Si vous prenez et choisissez quelque chose, demandez-vous ce que cette chose vous a pris en retour. Votre cœur, votre personnalité, votre libre arbitre? Faites gaffe, réfléchissez.
Sachez que notre héritage ne sont pas les lumières, mais la lumière de Jésus.